Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai consacré le cours de la semaine dernière à vous parler de l'apprentissage du latin, notamment à destination de cette nouvelle classe de fonctionnaires et d'avocats qui se développe à partir de Dioclétien. Alors, je ne peux traiter de la formation que nos apprentis fonctionnaires recevaient en latin sans évoquer la tachygraphie, autrement dit, l'art de l'écriture rapide, la sténographie. Même s'il ne s'agit pas d'une langue à part entière, son enseignement est lié à celui du latin. Alors, un indice de ce rapport nous est livré par le papyrus d'Antinoé 1, dont nous avons vu la semaine dernière qu'il contient sur son dernier feuillet un double alphabet latin en minuscule et en majuscule avec le nom latin des lettres translittérées en grec. Or, ce codex, auquel donc appartient ce feuillet, est par ailleurs entièrement consacré à la tachygraphie. Alors, j'ai rappelé au début de ce cycle de cours l'importance croissante des tachygraphes, hein, les semeiographoi, les tachygraphoi, ou notarioi, en latin notarii, l'importance de cette profession dans l'Antiquité tardive. La tachygraphie, comme le latin, constitue un des traits distinctifs qui caractérise les administrations post-dioclétiennes. C'est grâce à elles que les débats de la curie, que les débats des audiences judiciaires, des procès ou des autres séances présidées par le gouverneur ou de hauts fonctionnaires étaient consignés par écrit. La bureaucratie romano-byzantine ne pouvait se passer de cette technique qui décuplait l'efficacité de son action et l'inscrivait, ça c'est important, l'inscrivait dans une mémoire collective de longue durée, puisque grâce à la tachygraphie, un certain nombre de débats ont pu être transcrits et être transmis de génération en génération. L'Église, elle aussi, recourait massivement aux tachygraphes, par exemple, pour la consignation des prises de parole et des débats lors des conciles, dont l'exactitude pouvait s'avérer déterminante pour des questions de doctrine ou de politique ecclésiastique. Alors, on a vu que la tachygraphie est une des rares spécialités liées à l'écrit pour laquelle nous disposons d'un contrat d'apprentissage. Il s'agit du papyrus Oxyrhynchos 724. Ce papyrus nous apprend qu'une des étapes de la formation à la tachygraphie était l'assimilation du commentaire, hein, commentarion. Mais quelles sont les autres étapes de cette formation ? L'apprentissage, en fait, de cette technique d'écriture rapide passait par deux volets. Le premier, c'est le syllabaire, en grec syllabai, les syllabes. Syllabaire qui énumère les signes représentant des syllabes et des désinences, puis les signes correspondant à des mots entiers ou à des groupes de mots usuels, appelés en grec semeia monobola. Alors, si on prend, par exemple, le fragment 2 du papyrus d'Antinoé 1 que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on voit que l'espèce de lambda que vous voyez ici change de sens selon la place des doubles points ou d'autres signes qui l'accompagnent. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors ça, c'est la première étape, le syllabaire. La deuxième étape, c'est le commentaire, comme on l'a vu dans le contrat d'apprentissage. Commentaire qui associe à chacun des 800 signes qu'il rassemble, des groupes de 4 mots, des tétrades, sans lien avec la valeur originelle du signe.
Les signes du syllabaire assemblés par série de 100, ils sont accompagnés de leur transcription et associés à quatre mots, donc les tétrades, qui sont assemblés selon divers principes qui peuvent être morphologiques, sémantiques ou syntaxiques et classés en fonction du vocalisme de la syllabe initiale. Alors, un élément diacritique qui représente la syllabe finale de chaque mot, en grec ptosis, hein, le K, était disposé à côté du signe de base et permettait au sténographe, en relisant ses notes, de savoir pour lequel des quatre mots le signe est employé. Alors, c'est un peu abstrait, je vais vous donner un exemple précis. Si on prend une des tétrades qui se trouve dans un papyrus, le signe, vous voyez, ressemblant à un grand L, est associé à quatre mots, labone, épistolène, prosphonei, qu'il faudrait écrire avec un oméga, et épitomos. Donc quatre mots qui forment en fait une phrase. Si vous lisez les quatre mots les uns à la suite des autres, ça nous donne « quand tu reçois une lettre, prosphonei, épitomos, réponds-y rapidement ». Ce signe était susceptible d'être accompagné d'éléments diacritiques, on l'a vu dans une diapositive précédente, qui déterminent le sens qu'on doit lui donner, comme on l'apprend d'un ensemble de tablettes tachygraphiques conservées dans la collection de Hall. Et vous voyez, on a ici ce signe avec différents diacritiques. Alors, si on a ce signe, c'est-à-dire juste avec ce diacritique qui vaut pour « on », eh bien, en fait, le « L » vaut pour « labone », puisque le diacritique, en fait, représente la terminaison. Si on a ce diacritique-là, qui vaut pour « n », eh bien, c'est qu'on a « épistolène ». C'est que le « L » muni de ce signe signifie « épistolène ». On continue avec ce signe-là, qui vaut pour « a », eh bien, en fait, il faut lire ce signe, pourvu de ce diacritique, prosphonei, etc. Donc, une fois assimilé ce système, qui est fondé sur une très, très exigeante mémorisation de centaines de signes et des associations entre ces signes et les mots du commentaire, l'élève doit passer aux travaux pratiques afin d'être capable d'utiliser couramment cette technique pour prendre des notes. C'est ainsi que, d'après le contrat d'apprentissage de 155, après Jésus-Christ, la formation que dispense le maître est rythmée par un paiement en trois versements qui correspondent aux trois grandes étapes de formation. Je vous le rappelle, tu as reçu le premier versement de 40 drachmes, tu recevras le second de 40 drachmes lorsque l'esclave aura assimilé le commentaire en entier, tu recevras le troisième à la fin de la période d'apprentissage lorsque l'esclave pourra écrire et lire sans faute n'importe quel texte. Alors, vous voyez, la première étape qui n'est pas précisée, c'est l'assimilation du syllabaire. La deuxième, l'assimilation du commentarion, du commentaire. La dernière, qu'est-elle ? C'est le passage de la théorie à la pratique en vertu de laquelle l'élève pourra prendre en caractère tachygraphique sous la dictée n'importe quel texte en prose et, dans un second temps, saura le retranscrire en lettres normales. C'est ce que dit le texte en parlant de lire sans faute. Alors, cette troisième phase était décisive, si on en juge par notre incapacité aujourd'hui à déchiffrer les textes ainsi codés que livrent les papyrus. On en a un certain nombre. Je vous en montre un qui est inédit, qui se trouve à Paris, à la bibliothèque de l'Institut de France. Vous voyez, on a une lettre, on a ici l'endossement, l'adresse sur le dos de la lettre, et sur la partie vierge, quelqu'un a écrit un texte en tachygraphie. Nous ne sommes pas capables de lire aujourd'hui ce texte, alors que nous connaissons le système de codage grâce au manuel de tachygraphie livré par les papyrus. Nous n'avons pas encore pu franchir le gouffre qui sépare la théorie de la pratique. Mais même bien maîtrisée, la tachygraphie n'en restait pas moins une technique recélant un main piège à éviter. Saint-Basile, dans une lettre qu'il écrit justement à un tachygraphe, un Dotarios, rappelle les difficultés d'un art où le moindre faux pas peut être catastrophique. Les paroles ont une valeur, ont une nature ailée. Voilà pourquoi elles ont besoin de signes, afin que le scribe les saisisse dans la rapidité de leur vol. Toi, mon enfant, forme complètement tes signes d'écriture et ponctue logiquement les passages. Il faut comprendre ici de mettre des points comme il faut pour séparer les phrases, ce qui n'est pas évident déjà dans un texte en scriptio continua, mais à plus forte raison dans un texte pris en tachygraphie. Et il continue en disant « Une petite erreur peut vicier un long discours, mais la diligence du scribe présente avec rectitude ce qui est dit. » Alors, outre les manuels de tachygraphie, la documentation papyrologique a livré des exercices de tachygraphie. Alors, ceux-ci ne sont pas a priori faciles à distinguer des véritables prises de notes tachygraphiques que l'on rencontre de temps en temps, souvent au verso de documents, je vous en ai montré un exemple. Comme nous ne comprenons pas ces textes, eh bien, il est difficile de savoir si on a affaire à des documents recyclés servant de support à des tachygraphes professionnels, à la place des tablettes de cire, qui sont le plus communément utilisées à cet effet, du fait d'une tradition romaine ancienne, ou bien s'il s'agit d'entraînement d'apprentis tachygraphes. Alors, certains textes en tachygraphie entrent indubitablement dans la catégorie des exercices, dans la seconde catégorie, quand ils sont accompagnés justement d'autres exercices d'écriture. Alors, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs. Nous avons vu le cas de ce papyrus qui présente différents. Qui est un vieux document dont le verso a été réutilisé par un apprenti scribe s'exerçant à différentes écritures documentaires, ainsi que, vous voyez ici, à la tachygraphie. Tout comme ce papyrus-là, où on a aussi, à côté d'exercices d'écriture, un texte en tachygraphie. J'ai zoomé sur ce passage pour que vous voyez ces signes qui ne ressemblent pas à des lettres grecques. Ou bien cette tablette de Leyde, où nous avons aussi des exercices d'écriture et, dans un coin, nous avons une séquence en tachygraphie. Alors, nous avions aussi rencontré des lignes de tachygraphie dans un papyrus contenant des exercices, non pas d'écriture documentaire, mais d'écriture calligraphique, d'écriture livresque. C'était le cas de ce papyrus de Cologne, où à côté d'exercices en majuscules bibliques, eh bien, vous avez aussi des lignes de tachygraphie. Alors enfin, la provenance du papyrus, pour revenir au papyrus Antinoé I, la provenance de ce papyrus dont nous sommes partis est assez intéressante, et en tout cas loin d'être de l'ordre du hasard. Antinoopolis, vous voyez qui se situe en milieu de l'Égypte, a en effet livré une proportion importante de syllabaires ou de commentaires tachygraphiques. Et ce n'est pas un hasard, puisque cette cité était la capitale de la province de Thébaïde, siège des chancelleries du gouverneur civil et du gouverneur militaire, et évidemment chancellerie consommatrice de tachygraphes. Cette spécialité y était donc tout particulièrement enseignée, ce que nous confirment aussi les sources littéraires. J'avais eu l'occasion d'attirer votre attention sur un texte de Théodoré de Cyre, tiré de son Histoire ecclésiastique, qui nous raconte l'histoire de Protogène, victime des persécutions de l'empereur Valens. C'est ainsi qu'avec son maître Eulogios, eh bien, il se retrouve exilé en Thébaïde. Il arrive à Antinoopolis, il y découvre une cité infestée de païens, ce qui l'affligea grandement, nous dit-il, et le poussa à agir pour essayer d'éradiquer le paganisme ambiant. Aussi, poursuit toujours Théodoré, l'admirable Protogène, vous avez le texte à l'écran, qui connaissait l'écriture d'Eunomios. Alors, Eunomios passe pour avoir été un maître de la tachygraphie qu'il aurait marqué peut-être en lui apportant certains perfectionnements. Donc, Protogène, qui connaissait l'écriture de Nomios et était exercé à la tachygraphie, ayant trouvé un endroit approprié, dont il fit une école, le texte grec nous dit « didaskaleion », enseignait l'art de la tachygraphie en même temps qu'il inculquait la parole de Dieu. Alors c'était là une initiative d'autant plus judicieuse et propre à être couronnée de succès qu'elle répondait à une demande de la part des fonctionnaires de la capitale thébaine, prêts à mettre leurs enfants destinés à la même profession qu'eux entre les mains d'un enseignant de tachygraphie, tout chrétien qu'il soit. Notons que l'alliance d'un enseignement de tachygraphie et d'un enseignement religieux, hein, comme nous le dit Théodoré, n'a rien pour étonner puisqu'on en trouve des parallèles dans la documentation papyrologique, notamment avec cette tablette cirée du VIe siècle qui est conservée à l'université de Halle et qui contient des extraits du commentaire tachygraphique. Hein, vous voyez ici, vous reconnaissez le L avec les signes diacritiques. Et qui contient aussi des extraits de passages des épîtres pauliniennes. Donc à la fois tachygraphie et texte chrétien. Alors, il se pourrait qu'un autre texte littéraire, cette fois-ci en copte, associe lui aussi Antinoopolis à la tachygraphie. Il s'agit de la Passion de Paniné et Panéo, qui est un texte hagiographique censé se dérouler au IVe siècle, mais en fait qui a été écrit bien après, vraiment vers le VIIe siècle, en tout cas pas après le IXe siècle. Cette hagiographie met en scène un jeune écolier du nom de Symphronios, originaire du nome Hermopolite, donc pas très loin d'Antinoopolis, hein, ce sont deux villes qui sont très proches, Hermopolis et Antinoopolis, très proches l'une de l'autre. Un certain Symphronios qui va se former à Antinoopolis, c'est chez un certain Sylvanos, chez qui il a pris, et voilà le texte copte, il l'a pris l'art d'écrire rapidement. Alors, la phrase est ambiguë. On ne sait pas s'il a appris l'art d'écrire rapidement, autrement dit la tachygraphie, ou s'il a appris rapidement à écrire. La suite nous montre le jeune Symphronios dépassant ses condisciples par son intelligence, au point d'ailleurs que ceux-ci le battent et lui cassent les pouces, d'où son nom de Paniné. Paniné, c'est celui des pouces sous-entendu cassés, hein, c'est en copte. Il est aussi question dans ce texte, semble-t-il, de la cursive, puisque à un moment il est question d'apprendre la petite main, ainsi que la grande main, qui pourrait être la majuscule. Et là, on peut hésiter entre un contexte scolaire classique, l'apprentissage de l'écriture, ou un apprentissage professionnel des écritures à la fois documentaires et littéraires. Alors, le texte n'est pas clair, mais on notera que Sylvanos n'est pas un maître d'école classique, contrairement d'ailleurs à la traduction qu'en donne l'éditeur italien Tito Orlandi, qui traduit Psar en nomikos ptolis par maestro publico. Maître d'école public. En fait, le copte dit Psar en nomikos, maître notaire, nomikos c'est notaire, de la cité, autrement dit un maître qui enseigne le notariat, ce qui, cette fois-ci, favorise grandement la première hypothèse, celle d'un enseignement professionnel. Par ailleurs, il est question à deux reprises dans ce texte de l'apprentissage des séméiones. Séméiones qui semblent avoir été interprétées par mes prédécesseurs comme signifiant l'être. Mais séméiones n'est pas le mot qui est normalement utilisé pour désigner les lettres de l'alphabet. Normalement, on utilise le mot stoikeion, pluriel stoikeia, ou gramma, pluriel grammata. En revanche, séméion est exactement le mot qui désigne les signes tachygraphiques, au point d'ailleurs que le tachygraphe, on l'a vu, s'appelle le séméiographos, c'est-à-dire celui qui écrit les séméia. Par ailleurs, on a vu que certains exercices, on a vu avec certains exercices que l'apprentissage de la tachygraphie pouvait se faire en même temps que celui de l'écriture cursive des documents ou de la tachygraphie des livres. Regardez, souvenez-vous du texte de Cologne que je vous ai montré à l'instant. Autrement dit, ce qui pourrait correspondre à la petite main et à la grande main du texte copte. Alors, si j'ai raison d'interpréter ainsi le texte, on aurait alors un témoignage de l'existence d'un enseignement professionnel orienté vers le notariat et l'administration, pris en charge par la cité, s'il faut en croire le titre de Entepolis, Pessar Nomikos Entepolis, maître notaire de la cité. Enseignement professionnel comportant, entre autres, une formation à la tachygraphie. On notera d'ailleurs que le milieu familial de Symphronios est relativement aisé. On apprend que sa mère a des ouvriers, ainsi que deux femmes à son service, et si elle envoie son fils apprendre la tachygraphie, c'est qu'il s'agit là d'un métier socialement compatible avec le standing de la famille et ne correspondant pas à l'image que nous serions tentés d'avoir en comparant le tachygraphe de l'Antiquité à une sténographe du XXe siècle, on va dire. Je n'ose pas dire XXIe siècle parce que le métier a complètement disparu. Les tachygraphes pouvaient en effet occuper des postes importants, comme ce Flavius Philoxène, très distingué tachygraphe du bureau présidial, donc du praeses, du gouverneur civil de la province d'Arcadie. Il n'y a donc aucune incompatibilité en termes d'arrière-plan socioculturel entre le codex de tachygraphie trouvé en Tinoopolis et l'exemplaire de luxe de Juvénal sur parchemin dont je vous ai parlé la semaine dernière, tous deux ayant été retrouvés côte à côte dans les fouilles d'Antinoopolis en 1913. Alors le latin n'est pas la seule langue que les futurs fonctionnaires officiant en Égypte ont dû massivement apprendre en réponse à la conjoncture politique du moment. Alors je vous propose de sauter quelques siècles et de nous intéresser à l'Égypte d'époque arabe. Alors la situation est inversée. Si à partir de la fin du IIIe siècle, les administrations d'Égypte étaient obligées d'apprendre une langue imposée par le pouvoir central, le latin, après la conquête arabo-musulmane, les conquérants, loin d'imposer immédiatement la langue officielle du califat, l'arabe, ont ressenti la nécessité de former leurs agents au grec et à la pratique des documents administratifs grecs de façon à continuer à faire tourner les administrations locales où le grec était depuis si longtemps la langue de référence. En effet, les Arabes s'emparent de l'Égypte en 641-642. Or, le grec n'y disparaît qu'au début du IXe siècle. Pendant plus de 100 ans, les bureaux des pagarchies, ces administrations locales au niveau des nomes, ont utilisé le grec à côté du copte, qui pouvait désormais être utilisé officiellement puisque le lien entre l'État byzantin et l'hénophone était rompu. Tandis que les bureaux du gouverneur arabe, qui sont installés dans la nouvelle province, la nouvelle capitale de l'Égypte, hein, Foustat, hein, qui est au Caire aujourd'hui, émettaient des documents en arabe, mais qui ne manquaient jamais d'être pourvus d'une version grecque pour qu'ils soient compris des instances locales. Et pour plus de détails, je vous renvoie au cours que j'ai consacré au multilinguisme grec-arabe copte en 2016, ici même. Alors, les conquérants n'ont pas souhaité bousculer trop brutalement les habitudes linguistiques de la population conquise, tout en cherchant à prendre le contrôle du pays au niveau local, autrement dit, en y plaçant, évidemment, des fonctionnaires arabes. Mais comment concilier cette politique de tolérance linguistique avec l'arabisation, hein, au sens ethnique du terme, des bureaux administratifs locaux ? Bien, il fallait pour cela que le personnel arabophone soit aussi expert dans la langue et dans l'écriture grecque. On constate en effet, dans les 50 dernières années de l'époque omeyyade, autrement dit la première moitié du 8e siècle, alors que les administrations locales sont en plein processus d'arabisation, eh bien, on constate quoi ? Une multiplication des exercices d'écriture, de documents administratifs qui nous ont été conservés grâce aux archives des bureaux pagarchiques, des pagarques. Alors, il s'agit de brouillons dans lesquels les employés des bureaux pagarchiques s'exercent à écrire à partir de modèles de textes administratifs, de lettres, de comptabilité, etc. Ils n'ont pas fait encore l'objet d'un recensement ni d'une étude systématique. Alors, provenant essentiellement de l'Arsinoïte, hein, donc autour du Fayoum, et notamment du bureau du pagarque Yahya ibn Hilal, ils ne sont pas propres à ce nom, pour autant que le montrent des exercices provenant d'autres régions. Alors, je voudrais vous montrer juste deux exemples. Le premier est à l'écran. Il s'agit d'un fragment de feuillet de papyrus qui vient du nom Arsinoïte, qui date du milieu du 8e siècle, et qui est constitué d'une série de lignes. Chaque ligne est indépendante des autres et correspond à des phrases typiques que l'on retrouve dans divers documents administratifs, ainsi que dans d'autres exercices d'écriture de la même ambiance arsinoïte. À titre d'exemple, vous voyez la troisième ligne, vous avez une phrase qui en grec signifie « pour les bateaux ayant transporté ou transportant », eh bien, cette phrase, vous la retrouvez dans cet autre document. La phrase suivante, « Sunteo neged uyos muslim »,« par la grâce de Dieu, moi, Najid ibn Muslim », eh bien, nous avons un document de l'Arsinoïde de la même époque qui nous donne cette même phrase répétée plusieurs fois. À la suite, vous avez eu Pertimes Eidon Logo, quelque chose qui est en lacune, pour le prix des marchandises au titre 2. Eh bien, cette phrase est typique de comptabilité et vous en avez ici un exemple. Alors, il s'agit d'un papyrus de 761 où on retrouve exactement la même phrase. Juste après, Sun Theo Kodiku Oikestiku, hein, par la grâce de Dieu, registre comptable, eh bien, c'est une phrase qui introduit différentes comptabilités, dont on a ici un autre exemple avec un exercice qui s'exerce exactement sur la même expression. De même ici, Sun Theo Yahye Uyos Helal Epeikeimenos Pagarkias Arsinoitu, au nom de Dieu Yahya ibn Hillel, préposé à la pagarchie de l'Arsinoïte, eh bien, on retrouve cette phrase ici dans un autre exercice répété plusieurs fois. Second exemple, avec ce document arabe réutilisé pour des exercices d'écriture consistant en des noms propres très communs, des formules revenant dans des registres fiscaux, des toponymes, des nombres, ainsi qu'une phrase en copte, qui est un début typique d'une lettre, « Au nom de Dieu, avant toute chose, je te salue », écrite dans un autre style que les phrases en grec, ce qui est normal, évidemment, à cette époque où le grec et le copte utilisent encore, j'ai eu l'occasion de vous le dire et on le reverra, des styles graphiques qui les différencient. Je pourrais multiplier les exemples. Mais qu'est-ce que ces exercices d'écriture nous disent ? Alors, ce ne sont évidemment pas des exercices d'écolier, comme le montre à la fois le type de formule répétée et le style adopté. Ils sont écrits en minuscules, qui est l'écriture en usage dans les chancelleries et qui demande une certaine expérience. Les fautes qu'on trouve dans ces exercices, notamment les nombreux phonétismes, indiquent que l'on n'a pas affaire à des personnages dont le grec est la langue naturelle. Le fait qu'on y retrouve parfois aussi du copte est l'indice que le scripteur s'exerçait aussi à écrire en copte. Alors je serais tenté de mettre ces exercices sur le compte de scripteurs arabes employés par les bureaux des pagarques, désormais arabisés, et s'exerçant à écrire dans des langues qu'ils maîtrisent moins bien, et surtout dans le style d'écriture en usage dans les bureaux administratifs de l'époque. Alors, il s'agit d'une hypothèse, parce que malheureusement, nous ne savons pas qui se cache derrière ces exercices, nous n'avons pas leur nom, nous n'avons pas leur statut. Le fait que dans cet exercice que vous avez ici à l'écran, on retrouve écrite sur le même feuillet, de la même main, une formule introductive qu'on a vue tout à l'heure, « Yahye, Iyos, Elal, Epekemenos, Pagarkias », donc « Au nom de Dieu, Yahye, fils de Hilal, attaché à la pagarchie, répété à la tête de la pagarchie, donc répété, vous voyez, trois fois, donc répétition de cette phrase, mais aussi, toujours sur le même papyrus, vous avez une série de lettres écrites à plusieurs reprises dans l'ordre alphabétique, de lettres en écriture minuscule. Cela montre qu'on a affaire à quelqu'un qui cherche à améliorer sa maîtrise de l'écriture minuscule utilisée en la chancellerie. Ces dizaines et dizaines d'exercices d'écriture sont donc, à mon avis, un épiphénomène de l'arabisation des bureaux pagarchiques et de la nécessité d'employer des arabophones capables d'écrire des documents en grec, ainsi qu'en copte, puisque le copte est désormais de plus en plus souvent utilisé dans les rapports entre l'administration et les administrés. Deux collègues, Lajos Berkes et Khaled Younis, ont d'ailleurs récemment, il y a une dizaine d'années, attiré l'attention sur une de ces figures trilingues travaillant dans les bureaux administratifs locaux en identifiant des mots arabes dans un exercice en grec et en copte. Voilà le grec, ici vous avez le copte, et là vous avez de l'arabe. Selon eux, grec, copte et arabe seraient de la même main. Ce serait le premier témoignage papyrologique à peu près indubitable d'un secrétaire versé dans ces trois langues. Mais nous sommes désormais avec ce texte à l'époque abbasside, regardez 789-790, où le grec s'efface derrière le copte et l'arabe. Alors, à l'exception des copistes, les diverses formations spécialisées n'avaient pas pour seul objectif d'enseigner les écritures professionnelles, mais aussi le lexique, la phraséologie propre aux documents en vigueur dans les figures professionnelles auxquelles elles conduisaient. Comment rédige-t-on un compte ? Comment rédige-t-on une lettre? Comment rédige-t-on un contrat? Autrement dit, en plus de la maîtrise des écritures et des savoirs techniques qu'impliquent ces professions, opérations arithmétiques, comptables, fonctionnement administratif, droit, etc., les personnes qui s'y destinent doivent assimiler le formulaire qui fait la spécificité de chaque type d'écrit et qui conditionne un ensemble de règles propres à chacun de ces domaines d'activité. Alors, pour illustrer cet apprentissage du formulaire, j'ai choisi la profession qui était la plus soumise, si je puis dire, à l'empire de la formule, le notariat. La validité d'un acte juridique était liée en effet à un certain nombre de règles, parmi lesquelles figuraient en premier lieu l'usage des clauses et leur formulation. Le notaire devait à la fois avoir un minimum de formation juridique et maîtriser le formulaire en vigueur dans la région où il officie, puisque celui-ci pouvait varier d'une région à l'autre, d'un homme à l'autre. C'est ce que résume très bien un passage d'un très long procès verbal d'arbitrage privé de 646-645, donc nous sommes quelques années après la conquête arabo-musulmane, un procès verbal où l'une des parties, qui se nomme Philémon, conteste la validité des lettres alléguées par la partie adverse, qui ne peuvent, selon lui, concurrencer la validité de l'acte juridique que lui, Philémon, produit. Il déclare en effet aux arbitres, vous connaissez le droit, et il utilise le mot grec tikaion, et la loi, là aussi c'est un mot grec nomos, ainsi que la façon d'écrire des notaires de Thébaïde, de Gingsrai, enen nomikos en Thébaïs. Le notaire, donc le nomikos, et vous retrouvez le mot qu'on avait déjà dans la vie de Paniné, le notaire nomikos est censé en effet connaître le droit et la façon de l'écrire, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser le répertoire des formules par lesquelles le droit s'exprime, par lesquelles le droit prend corps. Nous avons vu que certains actes juridiques d'une extrême simplicité et aux implications de faibles conséquences pouvaient être écrits par d'autres personnes que des notaires, notamment un intendant ou une des parties de la transaction. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui des sous-seins privés. Pour les autres, surtout si les parties sont soucieuses de s'entourer du maximum de précautions, notamment dans l'éventualité d'un litige qui les conduirait devant la justice, on s'en remettait à un professionnel, un notaire, qui se dit en grec, on l'a vu, nomikos, mais aussi symbolaiographos, synalagmatographos ou tabellion, du latin tabellion. Le notaire, en fait, change de statut à notre époque, durant l'Antiquité tardive. Concessionnaire de l'État, il n'est plus officier public, comme c'était le cas dans l'Égypte des Ptolémées ou du Haut Empire. Il rédige des actes notariés qui sont appelés en grec symbolaia agoraia, qui correspond au latin instrumenta publicae confecta, acte ou instrument, puisque le mot instrument a cette signification aussi en français, instrument dressé avec l'assistance d'un notaire. On trouve aussi l'expression « ep agoras suntatomena symbolaia », contrat dressé dans l'espace public, c'est-à-dire en fait dans un office notarial. Et ces actes notariés s'opposent aux actes sous-seins privés, idiokeira, c'est-à-dire mot à mot actes rédigés par une des parties, qui sont considérés comme de moindre valeur juridique, comme nous le rappelle ce texte du Codex Justinien. Mais si quelqu'un cherche à revendiquer pour lui-même un droit sur un objet mis en gage ou hypothéqué en se réclamant d'instruments de cette sorte, c'est-à-dire des idiots Keira, sous sein privé, nous donnons la préséance à celui qui s'appuie sur des actes notariés, même si leur date est plus récente, sauf dans le cas où les souscriptions de trois hommes ou davantage ayant une réputation avérée d'intégrité figurent sur les dits idiots Keira, ceci étant alors reçu comme s'ils étaient dressés par un notaire. Bon, il y a une exception, mais globalement, les textes notariés ont plus de validité juridique que les idiots Keira, les sous-seins privés. Le notaire continue donc, durant l'Antiquité tardive, à jouir d'une position centrale dans le domaine de la rédaction des contrats, d'autant que son bureau servait d'archivage des documents à une époque où, je vous le rappelle, les dépôts d'archives étatiques ont disparu. Alors, en dépit de son importance, eh bien, le notariat de la fin de l'Antiquité est mal connu. Mal connu dans son fonctionnement, alors que les documents qu'il a produits n'ont cessé de susciter une attention croissante, notamment sous l'angle de la diplomatique, c'est-à-dire sous l'angle de leur forme. Entre autres sujets, eh bien, la formation des notaires est encore un terrain presque vierge. Alors, je vous propose de nous y aventurer. Alors, j'ai déjà eu l'occasion, dans la partie introductive de cette série de cours, de traiter des difficultés d'interprétation des documents qui sont susceptibles de relever de la formation des notaires. Nous avons vu que, par le passé, ils ont été l'objet d'explications ou d'interprétations diverses. Quand on ne les a pas rattachés à une formation, on a pu y voir soit des formulaires modèles en usage dans les bureaux notariaux pour aider les notaires à rédiger leurs actes, soit des brouillons d'actes réels, soit des copies privées d'actes. En fait, seul l'examen attentif de ces documents, qui s'appuie autant sur l'écriture que sur l'analyse de la langue, et sur certains indices textuels, permet de trancher. Alors, cherchons ces indices. Un de ces indices est le caractère incomplet du texte. Un exercice ne s'astreint pas toujours à donner un contrat complet. Celui-ci, de toute façon, est dépourvu des parties écrites évidemment par les autres acteurs d'une transaction, à savoir la partie principale qui est censée signer ou souscrire à la fin du document, les témoins aussi, et évidemment le notaire qui doit apposer, enfin la complétion notariale qui est apposée par le notaire à la fin du document. Donc nos exercices sont de toute façon incomplets. Donnons un exemple avec ce papyrus que vous avez à l'écran, qui est du VIe siècle, qui est un feuillet sur lequel une personne qui maîtrise assez bien, on va dire, la cursive des documents, a esquissé un début de contrat de location s'arrêtant au tout début du corps même de l'acte. Vous voyez, il s'arrête là, pof. Et que nous dit l'acte ? Que dit le texte grec au moment où il s'arrête ? Je reconnais de ma pleine volonté sans. Et là, vous avez une lacune, certes, mais normalement le texte aurait dû continuer et nous n'avons rien. On pourrait penser qu'on a affaire à un début de vrai contrat que le notaire a interrompu pour une raison ou pour une autre, mais ce qui suit ce début de contrat, ici, infirme une telle hypothèse. La même main s'est entraîné à écrire, vous voyez dans une plus grosse écriture, en tout cas ici, un début justement de complétion notariale immédiatement suivi par la reprise de l'expression que nous avions au tout début du texte, enfin de la phrase que je vous ai lue, « O ecousia gnome, de ma pleine volonté », qu'il a répété ici. Il n'y a donc aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un exercice. Sans cette dernière ligne, nous aurions pu hésiter. Un autre indice, cependant, pouvait également nous mettre la puce à l'oreille. Si on regarde de près ce même document, on se rend compte que, quoique son auteur ait déjà une écriture expérimentée, eh bien, il maîtrise encore mal le grec. Ainsi, les quatre lignes du contrat sont truffées de fautes d'orthographe, dues principalement à la confusion entre omicron et oméga, hein, donc sur la longueur du son O, entre sourde et sonore, to, delta, gamma, kappa, qui aboutissent à des mots méconnaissables. Par exemple, ici, vous avez le mot dikaiou, hein, le droit, qui est écrit tigeou. Il n'y a presque aucune lettre qui est correcte. On a aussi un lapsus calami ici, lapsus calami qui n'est absolument pas explicable par des lois phonétiques ou des évolutions phonétiques. On a le mot sporimes qui est écrit sponimes. Alors, nous avons vu que c'est là une des caractéristiques majeures des documents d'apprentissage. Ce contraste entre une écriture aisée et une orthographe déplorable, eh bien, tient au fait que nos apprentis ont déjà dépassé, hein, depuis longtemps, le niveau de l'apprentissage de l'écriture, qu'ils maîtrisent bien, mais que leur niveau de grec est encore déficient. Le système pédagogique antique avait tendance, en effet, à placer l'apprentissage de l'écriture avant celui de la langue. On commençait par apprendre à écrire avant d'apprendre à lire, surtout avant d'apprendre à comprendre les textes qu'on écrivait. Pour ça, je vous renvoie à mon cours d'il y a 3 ans. Mais ce qui, dans les cas qui nous intéressent, amplifie ce décalage, eh bien, entre écriture et langue, c'est que nos apprentis sont le plus souvent non des hellénophones natifs, mais des Égyptiens qui savent bien écrire, qui ont une maîtrise orale du grec, mais pas encore une connaissance précise du grec écrit. Alors, il faut reconnaître cependant que cet indice, hein, de contraste entre belle écriture et langue fautive ne s'applique pas toujours, ne s'applique pas notamment ce papyrus qui est à la fois bien écrit et sans trop de fautes, alors qu'il s'agit sans nul doute d'un exercice de notaire. Tout simplement, plus nos apprentis sont proches de la fin de leur formation, moins ce critère que je viens de vous exposer est opérationnel. Ce critère ne s'applique pas non plus à ce codex de tablettes de la British Library que je vous présenterai ultérieurement plus en détail, qui est couvert d'exercices de contrat rédigés dans une main catastrophiquement maladroite. Mais là, le cas des écritures de débutants pose un problème plus général et extrêmement important sur lequel je m'arrêterai la semaine prochaine lors du dernier cours. Alors, des indices disséminés dans le texte même de l'exercice permettent aussi de le distinguer d'un contrat réel. La présence de pronoms indéfinis, hein, notamment qui remplacent les noms propres. On utilise en règle générale Odeina, un tel, ou Ode, celui-ci qui vaut aussi à notre un tel. On remplace aussi par des indéfinis les dates, ainsi que les sommes ou les quantités. On met poson à la place, temps. C'est le cas avec le papyrus que vous avez à l'écran, hein, qui date du 7e, 8e siècle, qui est un contrat de location où tous les noms ont été remplacés par des indéfinis. Je les ai mis en rouge. C'est aussi le cas de ce texte que j'ai déjà mentionné dans un cours précédent, un contrat de location, où le nom et le patronyme de la partie déclarante ont été remplacés par des indéfinis. Hein, donc, Flavius Jean, etc., etc., à Aurelius Intel, fils d'Intel. Et ensuite, vous avez le début du contrat, proprement dit, le corps du contrat, moi, un tel, colon, je reconnais, etc. Cependant, la présence de ces pronoms indéfinis ne suffit pas à démontrer qu'on a affaire à un exercice, car elle peut aussi caractériser des formulaires modèles en usage dans les bureaux notariaux. C'est d'ailleurs l'interprétation qui a été donnée des deux exemples que je viens de vous montrer. Mais la présence grave d'une faute, ici on a odeina à la place, donc le nominatif à la place du datif, dans le prescrit, m'incite à voir dans ce texte plutôt un exercice. Quant au second, là encore, une faute gravissime dans la partie initiale du texte qui intervertit le locataire et le propriétaire invite à y voir également un exercice. Alors, je n'ai en revanche aucun doute sur la nature du texte que vous avez maintenant à l'écran, qui contient un acte de conciliation où tous les noms ont été remplacés par des indéfinis. Mais pourquoi n'ai-je aucun doute, puisqu'on a vu que la présence d'indéfinis n'était pas en soi un critère suffisant? Eh bien, outre le fait que ce document est incomplet et que la date a été placée ici entre la partie initiale du contrat, le prescrit et le corps même du contrat, alors que ce n'est pas sa place normale, eh bien, ce qui fait pencher définitivement la balance du côté d'un exercice, eh bien, c'est le support. Il s'agit d'une tablette de bois qui est le support de l'enseignement par excellence et qui constitue un des indices les plus probants d'un contexte d'apprentissage. Enfin, mais beaucoup plus rarement, le document se présente expressément comme un exercice. C'est le cas de cette tablette qui vient de Moyenne-Égypte, qui pourrait avoir été écrite aux alentours de 374, qui est conservée à Milan, dans la collection de Milan, et qui comporte deux contrats de prêt, de nature très différente et couvrant de façon très pédagogique les deux catégories les plus importantes de ce type de document, dont le dernier est suivi par la ligne suivante. Vous avez ici Aurelius Sévère ou Severus Papnoutis, apprends, écris bien, applique-toi bien. Aurelius Severus Papnoutis, Mantanen, on aurait dû avoir Mantané, Grapson Kalos, on devrait avoir Grapson Kalos, mais peu importe, Philoponie pour Philoponei Kalos. Eh bien, on a là quoi ? Eh bien, le nom de l'apprenti et une triple recommandation qui lui est adressée par son instructeur et qu'il recopie avec, vous le voyez, un certain nombre de fautes, du genre de celles que l'on trouve dans des documents scolaires, souvent sous la forme courte Philoponei. Là, on a trois impératifs, mais souvent, dans les textes scolaires, on trouve un seul impératif, Philoponei, applique-toi. Je voudrais vous en montrer quelques exemples avec cette tablette où le maître a écrit en grosse onciale une maxime de 2 trimètres destinée à être recopiée par l'élève. Eh bien, il fit suivre la sentence d'un Philoponei. Sur cet ostracone, c'est l'entrée suivante de la diapositive, eh bien, on a une liste de noms accompagnée de l'injonction « Neon on Philoponei », tu es jeune, alors applique-toi. Sur cette tablette qui se trouve au musée Borelli de Marseille, eh bien, le maître a écrit 5 lignes, une sentence en 2 trimètres iambiques sur 5 lignes qu'il conclut à la ligne 6 par Philoponei et l'élève a ensuite recopié plusieurs fois, c'est ce que vous avez ici, la même phrase sur 3 tablettes avec le même Philoponei que vous arrivez peut-être à lire ici. Sur cette tablette de Brooklyn du 4e siècle, eh bien, le maître a copié une sentence de 3 trimètres suivi de Philoponei que l'élève, un certain Aurelius Appion, fils d'Imoutès, a recopié avec là aussi, le Philoponei, mais la surface est ici endommagée et se lit moins bien. Autre tablette conservée à Berlin, où le maître a tracé un alphabet
que vous voyez ici, alpha, bêta, gamma, etc. Et il a conclu, là encore, sa phrase, il a conclu cette séquence par Philoponei. Et enfin, cette tablette de Yale, où après avoir écrit la date, et avant de copier à partir d'un modèle un passage d'Isocrate, eh bien, l'élève a écrit son nom suivi d'une formule qui est très proche de la tablette de Milan. Donc son nom, Aurelius Constantis Ioannou, pardon. Donc Aurelius Constantin, fils de Jean, Philoponie, pour Philoponei, Kalos et Grapsa, applique-toi, et il a rajouté, et Grapsa, j'ai bien écrit. Kalos et Grapsa, j'ai bien écrit. Il faut comprendre, en fait, qu'il a recopié son modèle, donc l'injonction du maître, Philoponei, et qu'il a ajouté, satisfait de ce qu'il avait fait, il a ajouté, Kalos et Grapsa, j'ai bien écrit. Alors, vous voyez, cet impératif, hein, Philoponei, est typique des textes scolaires, s'inscrit dans la relation entre un élève et un maître d'école, et on pourrait croire qu'elle est un indice du caractère purement scolaire, au sens étroit du terme, du document sur lequel on la rencontre. Mais en fait, les exercices réalisés dans le cadre d'une formation professionnelle attestent également l'utilisation de cet impératif. Je voudrais vous en montrer un exemple avec ce papyrus, alors plus ancien, qui déborde, disons, notre période, puisqu'il est du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un feuillet qui donne un exercice d'écriture documentaire avec des bouts de documents et la phrase que vous arrivez à lire ici, « Philoponei graphon fait preuve d'application en écrivant », phrase qui a été recopiée 3 fois. Donc cet exemple, ainsi que la tablette de Milan, eh bien, sont intéressants en ce qu'ils montrent, soit que l'enseignement professionnel participait du même esprit que l'enseignement purement scolaire, soit que ce sont les mêmes enseignants qui dispensaient les deux types d'enseignement en utilisant les mêmes méthodes. Là encore, je reviendrai sur cette importante question la semaine prochaine. Alors, pour retourner à mon point de départ, c'est-à-dire la difficulté d'identifier les documents relevant d'une formation professionnelle et les indices qui permettent de les repérer, eh bien, je conclurai que c'est souvent en croisant ces indices que l'identification s'avère la plus solide. Mais même parvenus à ce résultat, eh bien, nous nous heurtons souvent au problème de savoir si nous avons affaire à un modèle de maître ou à un exercice de copie ou de rédaction de l'apprenti, voire à un entraînement d'un notaire déjà professionnel, puisque l'écriture, qui est un critère décisif dans le cas des documents purement scolaires, ne l'est plus pour nos exercices d'un niveau plus avancé. Les fautes sont alors le critère le plus pertinent, même si nous devons avoir à l'esprit que les notaires professionnels, surtout dans les villages, pouvaient aussi pécher par leur orthographe et par leur maîtrise du grec. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recours à des tablettes constitue l'indice le plus patent que tel contrat a été écrit dans le cadre d'une formation spécialisée, eh bien, je privilégierai, dans les exemples que je vous présenterai, ce type de support. J'éliminerai aussi les cas de codex, de tablettes qui comportent des exercices mathématiques ou métrologiques. J'en ai déjà traité dans la partie que j'ai consacrée à la formation des intendants, même si, je voudrais insister là-dessus, même s'il n'est pas exclu que plusieurs de ces tablettes résultent d'une formation qui pouvait aussi menées au notariat où des connaissances arithmétiques étaient nécessaires à la rédaction de certains types de contrats. Alors, s'il est possible que l'apprenti notaire ait reçu une formation théorique en droit, nous n'en avons cependant pas de traces claires au point que l'on pourrait douter de la réalité de cette formation. En tout cas, dans la majorité des cas où l'on soupçonne que l'enseignement reçu était le plus pratique possible et consistait en l'assimilation des formes d'actes en usage et visées à la reproduction presque mécanique de formulaire dont on s'écartait le moins possible. L'apprenti notaire devait donc apprendre principalement à maîtriser les styles d'écriture et à maîtriser le formulaire. Alors, les styles d'écriture, je n'insisterai pas sur cette dimension dont j'ai déjà amplement traité avec les apprentis scribes et les apprentis copistes. Je me limiterai ici aux exemples qui relèvent de l'assimilation des styles, vous vous souvenez, j'avais employé ce terme, infra-documentaire, propre aux actes notariés. Je vous avais dit qu'un même document n'était pas toujours écrit dans un même style d'écriture. C'est particulièrement vrai de deux types d'actes qui étaient amenés à rédiger un notaire, c'est-à-dire les plaintes ou pétitions, où vous voyez l'entête donnant le nom de l'autorité à laquelle on s'adresse, ce qu'on appelle techniquement l'inscriptio, était souvent écrit dans un style plus soigné et plus solennel, en tout cas, vous voyez, différent du reste du texte. Et puis, donc ça c'est un premier cas, l'autre cas, ce sont les contrats, ou actes juridiques, susceptibles de jouer sur une double opposition stylistique. Alors la première opposition, vous l'avez ici à gauche, c'est la différence d'écriture entre l'acte lui-même et la partie initiale, le prescrit. Vous voyez, dans une écriture un petit peu différente, ou bien vous pouvez avoir un autre type d'opposition qui consiste à utiliser un certain type d'écriture pour le corps même du document et une écriture qui s'oppose, notamment par l'inclinaison, pour la complétion notariale. Alors, la différence, partons de ce cas d'opposition, la différence entre écriture propre à l'acte lui-même et celle utilisée pour la complétion du notaire. Eh bien, il est possible que nous puissions en avoir un exemple ici avec ce papyrus que je vous ai montré tout à l'heure, qui pourrait se rattacher à cet apprentissage, puisque après le début du contrat de location brutalement interrompu, eh bien, le scripteur s'est essayé à écrire un début de complétion dont vous noterez qu'il a utilisé, pour lequel il a utilisé des lettres beaucoup plus grosses et dans un style un petit peu différent. Là, on a une écriture légèrement penchée, alors que là, c'est une écriture droite. Et vous remarquerez que les lettres n'ont pas non plus la même forme. Ici, vous avez un mu qui est très différent de celui qu'il a utilisé pour la complétion. Un autre exemple, peut-être plus évident encore, nous est fourni par ce papyrus du 7e siècle. Sur une face, eh bien, on a recopié deux fois dans une cursive penchée, une de ces invocations chrétiennes par lesquelles commence un contrat, au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, Dieu Sauveur, etc. Et sur l'autre face, eh bien, on s'est exercé cette fois-ci dans une écriture droite à tracer une complétion notariale écrite par moi, Jean, notaire, par la grâce de Dieu. Et celle-ci est suivie immédiatement par une nouvelle invocation, ici, qui est à nouveau en écriture inclinée, contrairement à cette écriture-là. Les éditeurs y ont vu des mains différentes, du fait que l'inclinaison des écritures est différente. Pour ma part, je crois qu'il s'agit de la même main, en tout cas, ça me paraît évident pour cette face, qui s'exerce donc à des styles différents. Alors, pour ce qui est des complétions latines, je n'y reviendrai pas, j'ai eu l'occasion, en parlant du latin, de vous montrer des exemples de notaires qui s'exercent, ou d'apprentis notaires qui s'exercent à écrire des complétions en latin. Souvenez-vous, vous en avez un exemple ici, ou cet exemple-là. Alors, la seconde opposition stylistique que l'on trouve dans les contrats se rencontre dans les actes des nomes qui se trouvent ici. C'est-à-dire le nom Héracléopolite, Arsinoïte et Oxyrhynchite. Elle consiste à mettre en évidence par l'inclinaison de l'écriture le prescrit, c'est-à-dire l'invocation initiale, la date du contrat, le lieu où le contrat a été écrit, et le corps même du contrat qui, lui, est en écriture droite. C'est peut-être à maîtriser ces deux styles que s'est exercé justement le scripteur de cette tablette, sur la première phase de laquelle il a commencé à copier ou rédiger en écriture droite un contrat de location qu'il poursuit sur l'autre phase dans une écriture inclinée. Alors, évidemment, on ne peut pas exclure qu'on n'ait pas affaire à deux personnes différentes, mais j'aurais tendance à penser que c'est la même, mais qui s'exerce dans deux styles différents. C'est sûrement le cas de cette autre tablette du Vatican qui offre un autre exemple de différenciation stylistique entre l'invocation, vous voyez, qui est écrite dans une écriture droite et assez littéraire, en fait, qui ressemble à la majuscule ogivale, mais cette fois-ci non penchée, et qui s'oppose à l'écriture beaucoup plus cursive qui est utilisée pour le reste du texte. Alors, je n'insisterai pas sur l'apprentissage des styles d'écriture, puisque j'en ai longuement parlé. La maîtrise des styles graphiques n'est évidemment qu'une des compétences attendues de la part d'un notaire. Il doit avant tout avoir une bonne connaissance des formulaires en vigueur pour les différents types de transactions pour lesquels il rédige des instruments. Et cette assimilation du formulaire passer par différentes méthodes dont je vous parlerai la semaine prochaine. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.